récemment abattu après avoir survolé le territoire américain. Parmi les invités, Oksana Markarova, l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, et les parents de Tyree Nichols, le jeune Africain-Américain battu par des policiers du Tennessee et qui est mort quelques jours plus tard.
Lorsque des policiers ou des services violent la confiance du public, ils doivent en être tenus responsables.
Après les récentes fusillades en Californie, le président Biden a de nouveau appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Il a exhorté les républicains à proposer une réforme de l'immigration, des propositions de réduction de la dette et s'est engagé à protéger les droits reproductifs.
Ne fais pas d'erreur. Si le Congrès adopte une interdiction nationale de l'avortement, j'opposerai mon veto.
Dans quelques mois, le président Biden devra faire face aux républicains qui réclament des réductions de dépenses avant d'accepter d'adopter une hausse du plafond de la dette pour éviter le défaut de paiement.
Merci beaucoup, Jacques. Place maintenant à nos invités pour débattre de tout cela. Ici à Washington, Marilyn Sifocle, professeure de langue à Howard University. Nous avons à Houston, au Texas, Jean-Claude Zamba, analyste politique, et à la Barbade, précisément à Bridgetown, la capitale donc de la Barbade, René Lec, analyste politique. Merci à tous. Vous êtes tous observateurs avertis de la scène politique américaine. Alors, Marilyn, le sondage qui a été publié juste avant le discours de mardi montre clairement qu'une bonne partie des Américains ne jugent pas de façon positive la présidence de Joe Biden, jusque-là en tout cas. Son allocution était dirigée principalement la classe moyenne, notamment en insistant sur les politiques économiques et sociales. Alors, vous pensez que son message a été bien reçu ?
Son message, en tout cas, était extrêmement percutant. C'était un message très vigoureux. Il a insisté sur son bilan. Son bilan est plus qu'honorable. C'est un bilan qui est quand même excellent, puisqu'il a ajouté 12 millions d'emplois aux États-Unis. Et donc, c'est un discours qui montre que les États-Unis, comme il dit lui-même, America is back.
Jean-Claude Zamba, certains observateurs estiment que si on ne s'en tenait qu'aux chiffres, hein, taux de chômage faible, croissance forte, le président serait beaucoup plus populaire que ça. Comment interprétez-vous sa baisse de popularité et son discours pourra-t-il l'aider à un peu rebondir?
Je pense que son discours va l'aider à rebondir. La seule situation qui se passe ici, c'est que malgré toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement Biden, les populations n'ont toujours pas ressenti les effets de ce travail. On dit aujourd'hui que 40% de la population se dit être plus pauvre qu'avant que M. Biden ne prenne le pouvoir. Aujourd'hui, on est en train de parler de ce qu'on parle de « eggflation ». Ça veut dire que le prix des œufs ont doublé de deux fois depuis qu'il a pris le pouvoir. Évidemment, nous avons la crise de l'Ukraine, nous avons le fait qu'à peu près 10 millions de poulets sont morts suite à une crise aviaire. Donc la population ne ressent pas encore toutes ces mesures. Mais ça prendra un certain temps. Je pense que d'ici la moitié de l'année, d'ici le printemps, toutes les résolutions qui ont été prises seront ressenties par cette population américaine.
Alors, René Lec, le président a-t-il un problème de, comme on dit en anglais, de messaging, ou est-il plutôt victime d'une inflation qui persiste, même si elle commence à baisser?
Oui, Abdourahman, en réalité, il est victime tout simplement de la réalité du monde dans lequel nous sommes. C'est un monde qui sort d'une pandémie, qui n'est même pas encore complètement sorti d'une pandémie. Et cette pandémie-là, tout a été mis au ralenti. Il y a eu la crise de la chaîne d'approvisionnement. Et bien entendu, l'un des effets évidents, ça a été l'inflation, comme vous dites. Ensuite, bon, vous avez la machine industrielle qui a du mal à se remettre en route. Il y a la situation économique en Chine, la Chine qui est en plein Covid, avec toutes les difficultés qui vont avec et l'impact sur leurs machines économiques et industrielles. Donc tout cela a un impact énorme sur l'économie américaine. Ça a un impact énorme sur l'économie mondiale.
Son discours de mardi va l'aider?
Oui, on peut l'espérer, mais vous savez, les effets encore d'un élément supplémentaire de ce auquel je viens de parler, c'est la guerre en Ukraine. Donc la combinaison de tout cela fait qu'il est dans une situation particulièrement difficile. Et je pense qu'un discours, ça peut avoir un impact, mais je pense que ça ne sera pas suffisant, bien entendu.
Alors Marilyn, le président Biden estime que son élection en 2020 était en grande partie une réponse à son offre de bipartisme et d'unité. Hein. Il a réitéré ce message devant le Congrès mardi soir. Quelles concessions le président et les démocrates pourront-ils faire, notamment sur le déficit budgétaire, sujet sur lequel les deux parties ne s'entendent pas forcément?
Alors, les deux parties, évidemment, comme vous l'avez dit, ne s'entendent pas sur la question du déficit budgétaire. Mais il faudra faire des choix qui sont très francs. Et le président a mis dans la balance la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, les Américains y sont extrêmement attachés. Donc, il va falloir faire un choix qui soit vraiment décisif. Et là, les Américains verront vraiment que le Parti démocrate penche davantage pour leur intérêt, puisqu'il s'agit de préserver la sécurité sociale que beaucoup de républicains auraient voulu privatiser.
Mais pourquoi 62% quand même des Américains estiment, Marilyn, que le président n'a pas fait grand-chose, ou en tout cas a fait très peu, malgré tout ce qu'on a, en tout cas beaucoup d'experts sont d'accord que quand même sur les chiffres, on ne devrait pas se plaindre, mais dans la réalité...
Tout à fait, sur les chiffres, il ne devrait pas se plaindre. Toutefois, il a peut-être un souci d'image. Nous venons d'une présidence très mouvementée, et très médiatisée que celle de Trump. Il y a avant Trump, il y a eu une présidence encore plus médiatisée, c'est-à-dire celle de Barack Obama. Et ces deux précédents présidents étaient présentés sur la scène internationale comme étant des présidents charismatiques. D'accord. Or, le président Biden n'a pas ce charisme. Mais par contre, il a des résultats, il travaille. Il y a aussi qui compte dans son image, son âge. Et donc, beaucoup lui reprochent son âge. Donc, il souffre peut-être de ce que l'on appelle le âgisme, puisque à partir de certain âge, les gens ont en tête la retraite pour les personnes qui auraient son âge. D'accord. Donc il faut qu'il puisse montrer justement à cette population américaine que l'âge n'est qu'un élément accessoire.
Jean-Claude, l'un des thèmes les plus importants de son discours était le bipartisme et la nécessité pour les démocrates et les républicains de travailler ensemble. Est-ce qu'il y aura des concessions de part et d'autre sur par exemple, la question du plafond de la dette, la hausse des taxes pour les milliardaires? Ce sont des questions quand même assez, disons, clivantes.
En effet, je pense que, comme on l'a vu ces deux dernières années, sur certains éléments, ils ont pu avoir un certain consensus sur donc l'acte qui a été mis en place par rapport à diminuer l'inflation. Ils ont travaillé ensemble là-dessus. Sur la loi sur les semi-conducteurs et la science, ils ont travaillé ensemble là-dessus. Maintenant, à partir de maintenant, ils sont en train tous de regarder la prochaine élection de 2024. Il est clair que les républicains vont tout faire pour s'opposer à certaines choses qui peuvent donner à M. Biden une primauté ou une bonne image. C'est la politique, c'est lui en politique qui va se passer. Par rapport à la dette, je pense que d'ici l'été, puisque c'est à ce moment-là où ils devront s'assurer qu'il y ait un nouveau plafond, en tout cas, pour ceux que j'ai vus jusque-là depuis les dernières années, ça va être quand même assez un peu difficile qu'ils arrivent à trouver un consensus dès le départ, mais ça dépendra donc de la réaction en fait des démocrates, comment négocier et faire des concessions, parce que nous nous rendons compte que ce qui se passe, comme on a vu avec l'élection de M. McCarthy, ce sont les concessions, c'est la rue politique qui se passe.
McCarthy qui a rencontré la semaine dernière Joe Biden à la Maison-Blanche. C'est peut-être un bon signe, n'est-ce pas, René? Alors, les questions domestiques, René, l'inflation, l'emploi, l'avortement, les violences policières, ont sans surprise occupé une place de choix dans le discours de Biden. Mais il y a aussi les sujets internationaux comme l'Ukraine et les tensions avec la Chine. Pourquoi ces sujets doivent intéresser l'opinion publique américaine?
Oui, écoutez, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça a un impact direct sur la réalité économique, la vie quotidienne des Américains. Toutes les sanctions imposées à la Russie ont un impact sur l'économie mondiale, sur l'économie européenne en particulier, et donc par ricochet sur l'économie américaine. La question de la situation aujourd'hui en Chine, bon, qui est plus une situation difficile du fait du Covid qu'autre chose, alors que la tension entre les États-Unis et la Chine sont plus d'ordre géopolitique qu'autre chose. Donc là, on est dans des considérations un peu différentes. Mais il est évident qu'aujourd'hui, ce que la classe politique américaine, je dis la classe politique en général, parce qu'il y a un consensus quasiment entre républicains et démocrates, c'est que les États-Unis, la Russie et la Chine sont les deux grands adversaires à l'échelle internationale des États-Unis.
Alors, voici quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y a Marcelin Kofi à Abidjan. Il nous dit que sur les questions de l'inflation et surtout la guerre en Ukraine, le président Biden n'arrive toujours pas à apporter la réponse. Et c'est un discours très déterminant pour le renouvellement de son bail à la Maison-Blanche en 2024. Et puis Mamadou Ouri Bari à Dakar, il nous dit « Les États-Unis doivent savoir désormais que les puissances se multiplient et que dorénavant, ils ne peuvent plus seuls prétendre être les gendarmes du monde, bien qu'ils restent la première puissance mondiale. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous,
vous et nous.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités ici à Washington, Marilyn Sefok, le professeur de langue à Howard University. À Houston, Jean-Claude Zamba, analyste politique. Et à la Barbade, précisément à Bridgetown, René Lake, analyste politique. Alors Marilyn, quand le président relance son slogan, hein, « Restaurer l'âme de la nation », dans ce discours de mardi, est-ce qu'il n'est pas déjà en pré-campagne?
Oui, il est sans doute en pré-campagne, mais c'est aussi une façon de rappeler à son auditoire les événements aussi du 6 janvier, parce qu'il s'agissait pour Biden de relever le défi et de remettre sur les rails la démocratie américaine qui avait été vraiment entachée par son prédécesseur. Donc il s'agit là d'un discours où quand il parle de l'âme des États-Unis, il parle donc de la Constitution, il parle du fait que cette démocratie n'est pas garantie, c'est une démocratie pour laquelle il faut se battre au quotidien, et il veut montrer aux Américains qu'il est justement celui qui garantit, il est le garant de la démocratie américaine. Donc il est, si vous voulez, un peu déjà en campagne.
Jean-Claude, beaucoup pensent qu'il pourrait bientôt annoncer sa candidature. Sur quels éléments devrait-il s'appuyer pour décider de sa candidature ou pas ?
Ben, je pense que déjà, ce sont ses records, hein, ce qu'il a pu faire. Le relancement des infrastructures, il va tout faire pour essayer de contredire les personnes qui vont parler de son âge. On peut se rappeler en l'occurrence qu'en 1983, Monsieur Reagan, Ronald Reagan, était un peu dans la situation pareille. On parlait de son âge, il y avait une inflation, il y avait certains éléments de ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, Monsieur Ronald Reagan est l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Donc nous pensons que...
C'est un peu ce qu'il a essayé de démontrer mardi. Beaucoup pensent qu'il a été et qu'il avait beaucoup d'énergie. C'était un peu ce qu'il essaie de contredire là, pour un peu mettre fin à ce débat sur l'âge.
Ben oui, en tout cas, ça va revenir. Les Républicains ne vont pas lâcher, même s'ils ont leur héros, Ronald Reagan, qui était dans la même situation. Mais nous pensons que M. Biden a une très forte chance de vraiment faire passer le message. C'est son image publique sur laquelle il doit beaucoup travailler. Il ne faudrait pas que les Américains voient un président faible. Déjà, nous avons un peu vu les réactions par rapport au ballon chinois. Il va devoir être un peu plus, je dirais, agressif par rapport à son image et montrer aux Américains qu'il est ce président dont l'Amérique a besoin pour continuer ce qu'il a commencé.
D'accord. René Lec, sur quoi va dépendre la candidature de Biden, le discours de mardi? Est-ce qu'il nous donne des indications déjà sur ce que serait sa campagne s'il décidait de se présenter?
Oui, il semblerait que, regardez, dans son discours, il a beaucoup parlé de la middle class, il a beaucoup parlé de l'Américain moyen. Il est rentré vraiment dans les maisons, dans les cuisines, comme on dit ici en anglais, mais en parlant justement de choses très très particulières, très précises, du prix des billets d'avion qui cache les prix des dépenses supplémentaires quand vous le prenez. Il a parlé de questions vraiment très pratico-pratiques, pour ainsi dire. Écoutez, moi je pense que la difficulté première qu'il a, c'est d'abord au sein des démocrates. Vous avez vu dans le même sondage dont vous parlez, ABC, Washington Post, c'est que 32% des démocrates qui sont favorables à ce qu'il se représente. Donc les deux tiers des démocrates aujourd'hui ne sont pas tellement favorables à sa candidature. Donc ça, c'est déjà une première difficulté. Mais de mon point de vue, c'est parce qu'on est encore un peu loin des échéances. Les questions ne sont pas encore, la question n'est pas encore posée. Mais vous savez, Abdulrahman, dans un sondage, Trump, dans un duel Trump-Biden, Trump est à 48%, Biden à 45%. Là également, je crois que ça n'est pas significatif et que bon, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, les résultats
sont... Mais quand vous dites aussi que son premier problème, c'est au niveau des démocrates, on a justement vu Ocasio-Cortez, Alexandria de New York, qui n'est pas n'importe qui dans le camp progressiste, qui se dit favorable à l'organisation de primaires au sein des démocrates, ce qui n'est pas habituel quand on a un président en exercice.
Oui, oui, il y a eu quand même des cas où il y a eu, je me souviens de Bradley quand il se présentait dans les primaires contre, je ne sais même plus c'était lequel des présidents, si c'était Carter ou Clinton. Donc ça peut arriver. Mais elle le disait, elle répondait, j'ai bien suivi son intervention, c'était une réponse de principe qu'elle donnait plus qu'autre chose. Mais elle a tout ajouté que quel que soit le candidat, elle le supportera, en particulier si c'est Biden.
D'accord. Et Marilyn, sur cette question, les démocrates vont être, disons, vont s'aligner si c'est Biden?
Quand les échéances seront tout près, on se rendra compte du bilan. Le bilan parlera de lui-même. Et je pense que les questions d'âge et d'image seront supplantées par des questions vraiment très réelles, c'est-à-dire quel est l'impact de la présidence de Biden sur tout un chacun. Et comme on l'a vu dans son discours, le président Biden insiste beaucoup sur les préoccupations des Américains de tous les jours, les préoccupations qu'il s'agisse des agios, des frais bancaires par exemple, des frais universitaires, qu'il s'agisse des médicaments très onéreux dont il a baissé le coût, qu'il s'agisse des surcoûts par exemple des compagnies aériennes. Tout cela, ce sont des petites choses de la vie sur lesquelles auxquelles les Américains sont confrontés de façon quotidienne.
Donc, Est-ce qu'on va vers une saison préélectorale très ouverte? Parce que même du côté républicain, on ne se bouscule pas encore, hein, à part le président, l'ancien président Trump. Comment est-ce que vous voyez un peu l'année, cette année 2023 sur le plan politique électoral? Marilyn d'abord.
Alors c'est une année électorale qui sera fertile en événements, j'en suis sûre. C'est une année électorale où l'ancien président Trump lui-même aussi sera, comme, si je peux utiliser l'expression, challengé par d'autres. On voit déjà DeSantis se profiler, il y aura peut-être d'autres candidats.
Nikki Haley peut-être.
Et pour ce qui est de l'âge, eh bien, il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux candidats. Il n'y a que 3 ans qui les séparent.
Mmh. Et vous, donc, Jean-Claude, sur cette question, 2023, sur le plan politique?
Ben, je pense que là, les débats sont partis. Monsieur Trump a décidé de revenir. Il a présenté sa candidature. Monsieur DeSantis, la même chose. Il y aura bien d'autres qui vont se positionner. Je pense que nous allons nous retrouver dans une situation où les Américains auront vraiment sur leur télévision un débat assez constructif. Parce que je pense que nous sommes... Et ce que j'ai souvent remarqué, et je me rappelle, mon prof d'histoire nous disait que souvent, quand un président peut être en difficulté, il va commencer à aller en guerre, à vouloir montrer que non, l'Amérique d'abord. Et on voit un peu les tensions qui s'élèvent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, surtout par rapport à Taïwan. Je ne dis pas qu'on est nécessairement en guerre, on voit aussi la situation en Ukraine qui est en train de s'escalader. Et je pense que vraiment, le peuple américain aura une situation préélectorale qui sera très, très diversifiée et très, très munie.
Alors, René, le patron des Républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, qui demande à, disons, aux Républicains de ne pas manquer de respect au président lors du discours. Est-ce une manière de... C'est ce qu'on risque de voir un peu. Est-ce que les Républicains ont pu tirer les leçons des dernières séances électorales?
Écoutez, oui, les Républicains au Congrès ont un peu chahuté le président. Effectivement, McCarthy leur avait demandé de ne surtout pas le faire, et on l'a même vu 2-3 fois pendant le discours un peu réprimandé à distance par un geste et par quelques mots silencieux, j'ai envie de dire, les républicains qui s'agitaient dans l'hémicycle. Mais écoutez, je crois que ça, c'est inévitable, hein, c'est la nature, la composition aujourd'hui des républicains. Et je crois que pour ce 2023, Abdourahman, l'une des grandes question qui va être posée, c'est toutes les investigations que les républicains ont décidé de mener contre Hunter Biden, le fils de Biden, sur les questions d'utilisation de certains fonds, notamment des fonds Covid, etc. Donc il y a toute une série d'investigations qu'ils vont lancer, et ça également, ça va contribuer à diviser un peu plus le pays. Donc ça ne va pas être une année politique facile, 2023 et 2024 non plus.
30 secondes, peut-être, Marilyn, pour le mot de la fin. Donc, toutes ces enquêtes que les Républicains annoncent, ça ne risque pas d'éclipser un peu le débat de fond, en 20 secondes?
En tout cas, j'espère que ce ne sera pas le cas, parce qu'il y aura déjà des résultats concrets. Et donc, les Américains verront dans leur portefeuille et dans leur vie quotidienne qu'il y a un changement concret. On le voit déjà par les chiffres du chômage, qui sont le taux de chômage n'est que de 3,4% aux États-Unis. Donc, je pense que ces questions de fond resteront en figure de proue.
D'accord. En tout cas, on va suivre cette année 2023 sur le plan politique ici aux États-Unis. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre page Facebook. À très bientôt. Au revoir.